Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
L'histoire vit aujourd'hui une crise. Pour le dire d'un mot, nous n'y croyons plus et nous ne croyons plus en elle. Et surtout, une sorte de jugement globalement négatif sur notre passé a fini par l'obscurcir. Sans doute est-ce là un contre-coup des fureurs sanglantes d'une histoire qui, au XXe siècle, s'est érigée au-dessus des hommes et de leur destin, au point de justifier les goulags et les camps de la mort. Aujourd'hui, l'histoire est fatiguée, nous n'avons plus confiance en elle. Dès lors, comment se redonner une conscience historique? Comment croire à une histoire qui soit celle de tous et non pas celle de chacun ou de certains groupes désireux de faire reconnaître leurs souffrances particulières pour mieux intenter un procès contre l'histoire? Ne faut-il pas alors mieux comprendre ce que l'histoire est, à savoir, selon ce qu'en dit Paul Valéry, le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré? Donc, l'histoire est dangereuse, donc elle est une chimie, donc elle est un produit que l'homme se donne pour se comprendre. Qui donc, mieux que Raymond Aron, peut nous aider à comprendre comment se forme, comment se construit, comment peut se rigidifier l'histoire? C'est la raison pour laquelle nous recevons aujourd'hui Perrine Simon-Naoum. Madame, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de préfacer donc un livre, une réédition de Raymond Aron, donc ce livre étant « Dimension de la conscience historique » publié en 1961 et que les belles lettres viennent de faire reparaître. Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire intellectuelle et vous avez préfacé, outre ce livre-là, un autre livre précédemment, donc « Essais sur la condition juive contemporaine » qui sont des textes de Raymond Aron qui ont été réunis et annotés par vous aux éditions de Fallois en 1989. Et vous avez, avec Serge Audier et Marc-Olivier Baruc, publié un livre collectif qui reprenait des colloques qui avaient été faits autour de Raymond Aron, dont le titre, chez de Fallois toujours, s'appelle « Raymond Aron, philosophe dans l'histoire ». Alors pour introduire à ce livre, à cette réflexion, telle que vous nous l'avez indiqué, de Raymond Aron sur l'histoire se faisant, il faut, me semble-t-il, revenir avant 1961, donc au 26 mars 1938, où Raymond Aron soutient sa thèse de philosophie qui deviendra Introduction à la philosophie de l'histoire, donc qui est parue aux éditions Gallimard. Donc ce livre de 1900, enfin cette thèse de 1938 a provoqué un certain séisme au sein de l'université, tout en étant reconnu comme étant un travail exceptionnel. Et en particulier, donc un des examinateurs, Paul Fauconnet, qui est un disciple de Durkheim, a considéré ou a demandé à Raymond Aron s'il était soit sataniste, soit désespéré. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles étaient les critiques que Raymond Aron faisait du positivisme, d'une part, et deuxièmement, pourquoi est-ce que certains, et donc Paul Fauconnet en particulier, a pu considérer qu'il était soit sataniste, soit désespéré?
Il y a dans la thèse que Raymond Aron soutient donc en 1938, au moment où on est déjà au cœur des événements qui vont conduire à la Seconde Guerre mondiale, donc dans un climat ressenti par très lourd pour l'ensemble des observateurs. D'une part, la suite des deux précédents livres qu'il a publiés, qui sont en 1935, un livre sur la sociologie allemande contemporaine, et puis, dans la même veine, un livre intitulé « La philosophie critique de l'histoire ». Dans ces deux ouvrages et dans sa thèse, Raymond Aron se situait beaucoup plus du côté des penseurs de l'histoire allemands, donc des gens comme Diltai, dont j'ai déjà parlé, Rickert, Weber, qui considéraient donc que l'histoire, on pouvait avoir une approche du particulier et pas seulement de l'universel. Et Raymond Aron, ce faisant, donc, si vous voulez, rompait avec une vision de l'histoire qui était celle enseignée à la fois par l'université française, par les historiens de l'université française, mais aussi par des gens comme Léon Brunschvig, donc dans la ligne d'un néo-kantisme interprété à la française. Néo-kantisme qui, à la fois, reposait sur la force de la raison, la force de l'esprit, et donc l'idée que l'histoire avait un sens qui finirait par aller du côté de la raison. Il rompait également, et c'est l'un des sens de l'intervention de Paul Fauconnet, avec la philosophie du progrès et bien sûr avec la sociologie qui était à l'époque la sociologie enseignée par Durkheim. Donc l'idée de Raymond Aron était qu'on devait d'une part se situer non seulement du côté de l'universel, mais du côté du particulier, et que l'histoire constituait un drame sans unité, comme il l'a dit à Léon Brunschvig, et non pas une unité sans drame, à savoir le fait que, effectivement, l'homme ne pouvait jamais ni avoir accès immédiatement au sens de l'histoire, ni l'homme pouvait seulement finalement reconstruire l'événement historique dans lequel lui-même se trouvait pris et finalement admettre une pluralité des interprétations là où la plupart de ses interlocuteurs voyaient encore un sens univoque de l'histoire. Et la date, là encore, n'est pas indifférente, puisque dire ça en 1938, et Raymond Aron le soulignera dans une communication où il reprendra un texte d'Elie Halévy qu'il fait en 1939 à la Société française de philosophie, qui elle aussi va provoquer un grand nombre de réactions, c'est dire finalement à ces démocrates qui sont du côté de l'universalisme, qui sont du côté de la raison, attention, les démocraties sont fragiles et elles n'ont pas forcément partie gagnée. Il faut donc s'engager dans l'histoire, à la fois en tant qu'acteur et je dirais en tant qu'intellectuel.
Oui, donc il y a deux ennemis qui se dessinent tout de suite dans la scène intellectuelle de Raymond Aron, qui est d'une part effectivement cette croyance illimitée, démocratique, dans un progrès indéfini qui laisse à supposer que effectivement la raison réussira à surmonter toutes ces difficultés, d'une part, donc les démocrates trop démocrates, si on veut, et d'autre part, ceux, et vous aviez parlé effectivement de cette expérience qu'il a eue en 1933 en Allemagne, ceux qui vont considérer qu'il y a une histoire du côté des totalitarismes qui est en marche et qui va s'imposer indépendamment des dégâts humains que ceux-ci pourraient provoquer. Et donc, lui semble, vous comprenez si je me trompe, être un peu au milieu des deux. Et pour illustrer mon propos, je me permettrai de vous lire ce que, dans cette soutenance de thèse, à ce moment particulier, ce que Raymond Aron indique donc à Paul Fauconnet. En disant qu'il n'y a pas de vérité de l'histoire dans l'histoire. Je ne suis ni désespéré, parce que penser n'est pas tout, il y a aussi la sphère de l'action, ni satanique, du seul fait que j'élimine un certain nombre d'idéologies que le temps paraît avoir condamnées. Je précise que tout ça est pris donc dans la biographie faite par Nicolas Bavré donc sur Raymond Aron, publiée chez Flammarion, et qu'on peut lire et qu'on peut retrouver. Et là, il y a effectivement, me semble-t-il, une scène philosophique qui s'oppose à cela. Comment est-ce que vous réagissez à cette réaction de Aron à Fauconnet et à ces deux ennemis, d'une certaine façon, que tout de suite, Raymond Aron semble mettre en évidence ?
Je suis évidemment très frappée. C'est ce qui m'a conduit à travailler autour de l'œuvre de Raymond Aron, à la fois, je dirais, par la force, la précocité, la lucidité de cette analyse. Je l'ai dit par ailleurs, et ça a été souvent occulté, la passion de cet homme, l'engagement, la manière dont il cherche et il cherchera toute sa vie à conjuguer théorie et action, et finalement, si vous voulez, l'enseignement qu'on peut en tirer aujourd'hui. Car il me semble que face, je dirais non pas à l'aveuglement de ses maîtres, mais à l'impasse dans lesquelles les conduisait le fait d'accorder trop à la raison, ce que nous a laissé aujourd'hui Raymond Aron, c'est finalement une sorte de, à la fois de distance face à l'événement, de nécessité de s'engager, de nécessité de l'analyse, et d'être toujours dans le temps présent, c'est-à-dire de n'être jamais finalement cristallisée dans le passé et de n'être jamais projetée dans l'avenir. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est une leçon qui garde toute son actualité et qu'on pourrait appliquer à beaucoup de théories et à beaucoup d'événements dans lesquels nous sommes nous-mêmes projetés.
Alors, venons-en, si vous le voulez bien, donc, à ce livre que vous avez préfacé, donc, qui s'appelle « Dimension de la conscience historique » de 1961, donc, qui, effectivement, est dans le prolongement de cette soutenance de thèse, mais on est presque 30 ans après, enfin 25 ans après, donc la guerre est passée par là, les totalitarismes ont montré progressivement, et ce de plus en plus, ce de quoi ils étaient capables, et donc Raymond Aron reprend de façon théorique ces problématiques de l'histoire, de comment est-ce qu'on construit l'histoire, comment est-ce qu'on déconstruit l'histoire, est-ce qu'il y a un sens à l'histoire, etc. etc. Bon. Alors, vous divisez, puis on va reprendre donc qui sont à la fois les divisions du livre et à la fois vous, comment est-ce que vous les lisez. Donc, Raymond Aron divise cet assemblage, parce que ce sont des articles qui ont été faits par lui ici ou là, donc divise donc ce livre en trois, et on va essayer de reprendre ces trois parties. Alors, première partie, donc, comment construit-on des ensembles historiques ? C'est-à-dire qu'effectivement, pour qu'il y ait des ensembles historiques, il importe qu'il y ait une théorie qui permet cet assemblage. Et donc, il importe qu'il y ait une compréhension de l'histoire par l'historien et que cette compréhension de l'histoire par l'historien précède, d'une certaine façon, l'histoire. C'est ce qu'il disait déjà au moment de son introduction à la philosophie de l'histoire. La théorie précède l'histoire. Alors, comment est-ce que lui, en 61, comprend cette question de la construction des ensembles historiques ?
Vous avez raison de placer ce livre, qui est en fait un recueil d'articles que Raymond Aron publie donc à partir du milieu des années 50, recueil d'articles et de conférences prononcées dans les universités anglaises et américaines, dans la lignée de l'introduction à la philosophie de l'histoire. Puisque Raymond Aron reprend l'idée de l'homme comme conscience historique, reprend le problème qui était le sien dans la thèse, à savoir les limites de l'objectivité historique. Donc comment pensons-nous finalement, comment pouvons-nous penser l'histoire que nous faisons ? En même temps, il les place dans un monde qui est un monde totalement différent, dans la mesure où c'est un monde qui, pour la première fois, présente pour lui une unité historique. Unité historique qui est déterminée par deux caractères. D'une part, les caractères mondiaux, évidemment, des deux guerres qui viennent d'avoir lieu, et puis caractère unifiant, je dirais, de l'âge atomique. Et vous rappeliez tout à l'heure une citation de Paul Valéry. Reprenant cette citation de Paul Valéry, Raymond Aron disait « La question que moi je voudrais poser à nos sociétés, c'est comment nous autres, hommes des sociétés scientifiques et de l'âge atomique, nous savons que nous sommes engagés dans l'histoire. » Donc si vous voulez, il y a bien une continuité par rapport à la thèse. Et c'est pour ça que ce livre est important, parce qu'il est souvent passé en quelque sorte pour un livre, plutôt on dirait aujourd'hui un livre d'intervention, dont plusieurs exemples ont jalonné la carrière de Raymond Aron. Lui-même d'ailleurs disait ne pas lui accorder beaucoup d'importance. Moi, c'est au contraire, je dirais, un livre pour lequel j'ai un très fort attachement, parce que il fournit, me semble-t-il, un jalon absolument essentiel. Aron est au mi-temps de sa vie. Il est au moment où il va donc conjuguer explicitement, je dirais, la réflexion philosophique et l'analyse de l'actualité politique et internationale, et il va le faire à partir de cette position très singulière qui est la sienne et qui trouve, je pense, sa définition très particulière justement dans les dimensions de la conscience historique.
Alors, je voudrais, pour que nous terminions cette partie, vous lire un petit texte qui me permettra de vous faire réagir, donc de Raymond Aron, page 105 donc, de la dimension de la conscience historique. Les hommes ne se soumettent pas passivement au destin, ils ne se contentent pas de recevoir les traditions que l'éducation a déposées en eux, ils sont capables de les comprendre, donc de les accepter ou de les rejeter. Cette compréhension ne se confond pas avec la connaissance historique à prétention scientifique, elle ne l'implique même pas logiquement. Le révolutionnaire qui veut se libérer d'un héritage n'a que faire d'en construire le sens originel ou la formation progressive. Mais l'homme qui, par l'action, se veut libre dans l'histoire, se veut aussi libre par le savoir. Connaître le passé est une manière de s'en libérer, puisque seule la vérité permet de donner assentiment ou refus en toute lucidité. On retrouve là un maître mot, me semble-t-il, chez lui, qui est à la fois la connaissance, la liberté et la lucidité. Comment est-ce que vous réagissez à ce texte-là? Et dans cette articulation, qui a toujours été, me semble-t-il, la sienne, entre la connaissance, la liberté et la lucidité?
Je préfère, je dirais, les deux premiers mots, connaissance et liberté, que lucidité. Lucidité parce que, si vous voulez, trop souvent, à partir de ce mot, on a considéré Aron du côté d'une raison à la fois monolithique et glacée. Les deux autres mots qui montrent les niveaux auxquels Raymond Aron place sa réflexion, me semble-t-il, illustre parfaitement bien à la fois l'actualité de la réflexion qu'il mène dans ce livre et l'actualité de sa pensée. L'idée d'Aron, c'était toujours qu'il fallait penser notre existence au lieu de la subir. À savoir l'idée que, effectivement, l'homme vit dans un monde, vit dans la nature, il est soumis à une certaine forme de déterminité, mais que ce qui est à la fois le drame de l'histoire, drame au sens qui n'est pas seulement négatif, le drame et la grandeur sans doute de l'histoire, c'est cette vocation de l'homme, à savoir l'idée qu'il naît et meurt avec l'idée qu'il doit intervenir dans le monde, sans doute pour le rendre meilleur.
Oui, qu'il doit à la fois le rendre meilleur et le juger, le comprendre, le juger en même temps que l'histoire se fait, ce qui est effectivement le plus difficile, le plus compliqué pour lui. Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons juste après. Nous reprenons notre entretien avec Perrine Simon-Naoum autour de ce livre de Raymond Aron, Dimension de la conscience historique. Donc nous avons vu dans la partie précédente autour de ce livre à la fois ce moment, cette scène originaire donc du 26 mars 1938 où Raymond Aron s'oppose au positiviste français durkheimien qui imagine que effectivement nous allons dans le sens irrémédiablement du progrès et que la raison humaine réussira à surmonter toutes les difficultés qui sont les siennes, d'une part. Et deuxièmement, nous avons essayé d'analyser, de comprendre l'une des parties donc, de cet ouvrage qui tournait autour de la question de savoir comment est-ce qu'on construit donc, un ensemble historique. Et maintenant, voyons effectivement le deuxième moment de cet ouvrage qui reprend ou qui réactualise ou qui réinvestit la question qui était pleinement et complètement la sienne dans Introduction à la philosophie d'histoire, qui est celle de la causalité historique. C'est-à-dire comment est-ce que l'historien choisit, repère, hiérarchise des causes. Et donc, s'il hiérarchise des causes, il y a donc une liberté de l'historien dans ce choix, dans cette hiérarchie. Et donc, comment est-ce que Raymond Aron envisage, théorise, analyse cette liberté de l'historien et cette causalité historique qu'il met en évidence, que l'historien met en évidence.
Oui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'idée de Raymond Aron, c'est qu'il nous faut aussi porter un jugement sur l'histoire que nous vivons, rôle qui revient à l'historien. Historien qu'il a toujours considéré, en quelque sorte, comme on pourrait dire avec plus de bonheur que Platon auprès de Denis de Syracuse, mais comme un acteur de l'histoire et un conseiller du prince. Et la conclusion des dimensions de la conscience historique est d'ailleurs intitulée « Le rôle social de l'historien ». L'idée de Raymond Aron, il l'avait déjà mise en œuvre dans sa thèse, vous le rappeliez, c'est que la causalité historique n'est pas une causalité mécanique. En cela, il est évidemment kantien, mais il porte plus loin la réflexion de Kant à travers l'idée que ce qu'il s'agit pour l'historien d'expliquer, mais en plus de comprendre, c'est la position de l'individu. Et au-delà même de la position de l'individu, la position, la décision des acteurs historiques. D'où, si vous voulez, l'intérêt qu'il porte à l'analyse que fait déjà Thucydide de la guerre du Péloponnèse et les longs développements qu'il consacre lui-même à l'analyse de la Première Guerre mondiale. Analyser les décisions des acteurs, ça n'est pas, comme le pensaient les philosophes de l'école du Sud-Ouest en Allemagne, Diltai, les gens qui l'avaient précédé donc dans cette analyse de l'individuel, du particulier, du singulier, ça n'est pas entrer en empathie avec les acteurs. C'est d'une part essayer de reconstituer quel a été leur cheminement rationnel, c'est d'autre part prendre en compte la position d'observateur participant, si je puis dire, qui est celle de l'historien, qui participe donc du même monde, du même environnement, parfois, que celui des acteurs dont il analyse les décisions. Il y a donc, pour Raymond Aron, une pluralité des interprétations sur lesquelles débouche finalement cet art de l'historien et une part importante laissée même, je dirais, à l'imaginaire de l'historien dans la façon dont il doit réagencer les mises en perspective et essayer de comprendre quelles ont été les décisions, les cheminements des acteurs historiques. Et c'est là où il fait un pas encore supplémentaire, me semble-t-il, quand il affirme finalement l'importance de l'analyse de l'historien pour les époques qui vont suivre. C'est-à-dire qu'il se permet, il se donne la liberté de porter un jugement sur la rationalité, sur la logique, sur la réussite, sur le bonheur des actions entreprises par ceux qui l'ont en quelque sorte précédé.
Alors, donc, nous parlons donc de la causalité historique. Nous en parlons aujourd'hui, considérant que c'est un problème d'historien. Si on remet ça dans son contexte, donc en 1960, la causalité historique veut dire quoi ? Veut dire aussi qu'il y a des causes nécessaires, qu'il y a un sens de l'histoire, que l'histoire va dans un certain sens et que donc tous ceux qui doivent d'une manière ou d'une autre aller dans le sens de l'histoire doivent se rallier au totalitarisme soviétique communiste, qui à d'autres choses. Donc il y a un soubassement, il y a un arrière-fond à cette remise en cause de la causalité historique. Quand vous dites la causalité historique n'est pas mécanique, bon, ça paraît comme ça intéressant aujourd'hui. En 1960, ça a une force gigantesque, considérant que effectivement certains, et donc le communisme en particulier, s'est emparé de la causalité historique pour considérer que la vérité de l'histoire était dans un certain sens, qui était effectivement le leur. Est-ce que ce soubassement-là, est-ce que cet environnement-là apparaît d'une manière ou d'une autre dans la pensée de Raymond Aron ? Évidemment, dans ce texte-là, peut-être un peu moins, mais il est présent, certainement, pour les lecteurs de Raymond Aron en 1961.
Oui, vous avez parfaitement raison de le rappeler. Quand Raymond Aron s'efforce de redéfinir ce qu'il appelle une causalité historique, qui serait une causalité au sens d'un jugement réfléchissant kantien, ça n'est pas seulement donc la causalité mécaniste, déterministe des sciences de la nature qu'il évacue, mais c'est aussi, je dirais, la projection téléologique d'un sens de l'histoire faite par toutes les philosophies de l'histoire. Et ce qui est en arrière-fond des dimensions de la conscience historique, c'est bien sûr à la fois une discussion très vive avec des philosophes de l'histoire incarnés par Spengler ou Toynbee, avec qui il discutera d'ailleurs physiquement. Je veux dire, ils se rencontrent à ce moment-là au début des années 1960 à Cerisy, mais aussi évidemment avec Sartre ou Merleau-Ponty, avec lesquels Raymond Aron pensait en avoir en quelque sorte fini en 1955 en publiant L'opium des intellectuels et dont il s'est rendu compte que finalement ceux-ci ne se rendaient jamais aux arguments qui étaient les siens, c'est-à-dire aux arguments réellement non pas politiques, comme on l'a cru longtemps, mais aux arguments d'une discussion philosophique. C'est-à-dire que ce qu'il reprochait à Sartre et à Merleau-Ponty, c'était leur sorte de, si vous voulez, confusion philosophique, à savoir que l'un comme l'autre cherchait à concilier à la fois une histoire qui trouve un ancrage dans une conscience individuelle, dont rien, nous dit Raymond Aron, ne prouve qu'elle soit obligatoirement rationnelle, et un sens de l'histoire qui irait vers le triomphe du communisme et du prolétariat, donc un sens de l'histoire qui soit collectif. Rien pour Aron, et il cherche à le démontrer tout au long de ses pages, n'établit un passage obligatoire de l'individuel au collectif.
Alors, nous allons passer, donc sur malheureusement le temps nous fait défaut, mais sur la troisième partie donc, de ce livre qui s'appelle « Nation et Empire », où Raymond Aron constate effectivement qu'au XXe siècle, il y a eu un déclin des empires d'une part, et puis deuxièmement, une éruption de la guerre et des conflits, et lui mettant bien en évidence, ce qui me semble être un trait caractéristique de sa pensée, le caractère surprenant, inouï, inédit de l'événement, qui n'est jamais comme on le pense, ou comme on pourrait l'imaginer, et qui n'est donc pas dans une forme de déterminisme mécanique, comme vous l'avez indiqué. Pour en venir donc à un élément qui me permettra de ressaisir un peu à la fois ce que disait Raymond Aron et ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui sur cette question-là, qui est celle, d'une certaine façon, d'une troisième voie. La troisième voie étant la recherche ou le refus à la fois du relativisme absolu, c'est-à-dire que l'histoire est tellement déconstruite que finalement, plus rien n'est rien, et donc il n'y a rien à construire parce qu'on a tout est tellement subjectif que rien ne peut être ressaisi ou saisi, d'une part. Et deuxièmement, refus aussi de Raymond Aron des déterminismes idéologiques et ou historiques. Alors, comment définir cette troisième voie et comment la comprendre aujourd'hui, alors que nous sommes peut-être tombés, ce qui n'était pas le cas en 1960, dans un relativisme plus absolu aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 60. C'est-à-dire, quelle est la position, vous voyez ? Quelle est cette troisième voie recherchée par Raymond Aron entre le relativisme absolu d'une part et le déterminisme absolu, si on veut, d'autre part ? Et comment réussit-il à maintenir un équilibre entre les deux, sans tomber, ce qui a été le propre de sa pensée, sans tomber ni dans l'un ni dans l'autre ?
Je ne suis pas sûre que lui aurait analysé ça en termes de troisième voie. Pour lui, il y avait, je dirais, une voie raisonnable qui était donc celle ouverte par la raison devant se confronter aux événements et orienter, je dirais, l'action des décideurs politiques. Il a de plus en plus réfléchi aux formes que pouvait prendre cette action, et ce qu'annoncent les dimensions de la conscience historique, ce sont en fait les œuvres qui vont suivre, qui se répartissent, je l'ai dit, à la fois sous la forme des trois ouvrages paru au début des années 60, mais qui était en fait une reprise des cours qu'il avait fait à la Sorbonne entre 1957 et 1958. Donc réflexion, mais je dirais réflexion pragmatique, réflexion économique sur le développement des différentes formes de régimes politiques, qu'il s'agisse des régimes parlementaires, des démocraties pluralistes ou des régimes totalitaires. Et puis, réflexion également à partir de données vraiment concrètes. Et c'est là où Raymond Aron se fait à la fois philosophe et sociologue, où la sociologie vient en, je dirais, se met au service, en quelque sorte, de la philosophie sur ce qui était envisagé pour les différentes étapes du développement et de la croissance économique. Il retrouve en même temps les réflexions des philosophes et des historiens, puisque c'est extrêmement frappant, on pourrait appeler ça un manuel, ou le grand livre qu'il consacre aux penseurs de la sociologie, en 1967, les étapes de la sociologie contemporaine, inclut pour la première fois en France, et contre la tradition durkheimienne, deux penseurs qui sont Tocqueville et Montesquieu. Donc ce qui montre bien, si vous voulez, le spectre de la réalité qu'il lui semblait nécessaire de prendre en compte. Il est aussi extrêmement significatif que Raymond Aron ait continué toute sa vie, comme en témoigne l'ouvrage posthume qu'a réalisé Jean-Claude Casanova, qui porte le titre « Le marxisme de Marx », à discuter avec Marx. Donc si vous voulez, ce qui est très significatif chez Aron, c'est, vous parliez de tension tout à l'heure, je dirais finalement cet accord que trouve à la fois la réflexion et la pratique dans la manière dont il interroge la philosophie, dont il use de la philosophie, la manière dont finalement la sociologie, les données contemporaines, c'est aussi vrai du point de vue des relations internationales, qu'on pense à Paix et guerre entre les nations qui date de 1962 ou du Clausewitz de 1974, la théorie vient toujours abonder, vient toujours nourrir une réflexion qui trouve son ancrage dans le présent. D'où le fait que, effectivement, aujourd'hui, cette pensée, je crois, conserve une actualité des plus brûlantes et doit finalement nous servir, nous offrir une sorte de vade-mecum pour essayer à notre tour, non pas, je dirais, d'imiter Raymond Aron. Évidemment, il est mort en 1983, donc il n'a pas connu l'écroulement de l'Union soviétique, il n'a pas connu les événements du 11 septembre, il n'a pas connu ou peu la montée des fondamentalismes, la montée des terrorismes, mais il nous fournit, je crois, pour à notre tour prendre position face à ces événements, les instruments nécessaires à leur analyse.
Alors justement, pour prolonger cela, donc on peut considérer que cette question du déterminisme idéologique et historique n'existe plus dans le champ intellectuel d'une manière ou d'une autre, donc les totalitarismes ont montré un peu ce qu'il en était, et donc reste pour l'historien un danger qui est celui du relativisme. C'est-à-dire, c'est ce que je me permettais de dire en introduction, c'est-à-dire effectivement la reconnaissance de la souffrance mémorielle, les incriminations qui sont faites contre l'histoire, la déconstruction complète de l'histoire au point même qu'on peut se demander si aujourd'hui il y a encore une histoire commune et non pas une superposition, une juxtaposition d'histoires différentes. Alors, qu'est-ce que Raymond Aron peut nous dire aujourd'hui sur cette question-là du relativisme historique et de la concurrence mémorielle qui semble détruire, détricoter l'histoire telle qu'on peut le constater aujourd'hui ?
Je crois que son principal message consiste dans l'équilibre certes temporaire, chaque fois recomposé, mais par lequel il a défini l'histoire qui était un équilibre toujours entre l'individuel et le collectif. Il n'a jamais sacrifié l'individu, l'individu n'a jamais disparu de son champ de réflexion, c'était à partir de l'individu et de lui-même, Raymond Aron, dans l'histoire français, juif, vivant au XXe siècle, qu'il pouvait se poser un certain nombre de questions, mais il a toujours inscrit ses observations et ses analyses au sein d'une volonté politique qui était pour lui la volonté de vivre dans une communauté qui était en quelque sorte, je dirais, une communauté universelle telle que pouvait la penser Kant, c'est-à-dire une communauté d'hommes, de raison et de bonne foi. À l'intérieur de ça, je pense que les analyses qu'il donne peuvent être réactivées. Quand vous disiez que le relativisme présentait maintenant un certain nombre de nouvelles figures, on pourrait dire que c'est également le cas des déterminismes, puisqu'on voit un certain nombre de penseurs, je pense par exemple aux derniers ouvrages d'Alain Badiou, nous expliquer dans l'hypothèse communiste que, si vous voulez, la réalité n'a aucune importance, mais que finalement, ce que nous promet l'hypothèse théorique du communisme doit l'emporter sur toutes les déterminations que nous pouvons faire, toutes les objections historiques que nous pouvons lui faire. Donc, je pense qu'on retrouvera réactivé et, je dirais, réinvesti par nos propres problèmes, puisqu'il ne s'agit pas du tout de dire que la pensée d'Aron est à la fois univoque et éternelle, mais elle nous offre, je crois, un cadre de pensée qui n'est peut-être pas aussi enthousiasmant que les hypothèses de bonheur universel promises par M. Badiou, mais qui ont d'une certaine façon, je dirais, un aspect qui, moi, personnellement, me rassure.
Eh bien, écoutez, Perrine Simon, merci beaucoup donc, pour cet entretien. Je renvoie donc nos auditeurs, d'une part, à ce livre donc, qui a été un peu notre livre de référence centrale, donc Raymond Aron, Dimension de la conscience historique, donc livre publié en 1961 et qui vient de reparaître donc, aux Belles Lettres. Je renvoie surtout pour ceux qui n'auraient jamais lu de Raymond Aron à ses mémoires, qui sont, me semble-t-il, une merveilleuse introduction ou compréhension à la fois au siècle passé et à la pensée de cet homme qui a toujours cherché trop froidement, disaient certains, mais lucidement son siècle et les différentes époques qu'il a pu traverser, donc ses mémoires d'une part, et puis aussi ma biographie faite par Nicolas Bavré, donc Raymond Aron chez Flammarion. Et donc je renvoie aussi au précédent livre que vous avez préfacé, donc qui est un recueil d'articles ou d'interventions faites par Raymond Aron, donc Essai sur la condition juive contemporaine, texte réuni et annoté par Perrine Simon-Naoum, donc aux éditions de Fallois, et qui avait été publié une première fois et qui a été republié depuis en 1989. Mais écoutez, merci beaucoup pour cet entretien, et j'espère que comme cela donnera envie à tous nos éditeurs d'aller trouver ou retrouver les écrits et la personnalité de Raymond Aron. Merci.